problématiques peuvent-elles vous permettre de trouver l'amour? Alors, il paraît que oui, mais ne comptez pas sur moi pour vous expliquer comment. Pour ça, il y a un ancien prof de maths reconverti dans l'humour mathématique. Alors oui, c'est un sujet de niche, mais c'est aussi super intéressant. Après avoir sillonné la francophonie avec son spectacle Very Math Trip et publié un premier livre de vulgarisation rigolote, eh bien, il revient avec Fun Facts, 42 anecdotes drôles pour aimer les maths aux éditions de Books Supérieurs qui sort la semaine prochaine en librairie. Bonjour Manu Houdard.
Bonjour Charlotte.
Vous êtes aussi le fondateur de la Maison des Mathématiques, vous intervenez dans les classes également et puis votre spectacle il continue de tourner, hein. Il sera d'ailleurs à Moucron le 5 novembre. On vous reconnaît aussi à votre nœud papillon et à vos bretelles que vous avez mises ce matin et on est ravis. Voilà, c'est comme ça qu'on vous reconnaît aussi sur les réseaux sociaux, voilà, Manu Houdard. Et ce nouveau livre, c'est en quelque sorte donc un livre de culture générale amusante sur les mathématiques. On est étonné à chaque page, on apprend d'où vient le mot calcul, pourquoi il y a 60 minutes dans une heure, parce que oui, en fait, pourquoi? Eh bien, vous le saurez en lisant le livre. On découvre aussi que les Égyptiens comptaient en grenouilles, en feuilles de lotus et en doigts. Et tout à coup, on ne parle plus vraiment de mathématiques, mais d'histoire, de philosophie, de biologie même. Manu Houdard, pour vous, les mathématiques, c'est comme une copine qui vous emmène un peu partout?
Oui, c'est ça, même une amie, oserais-je dire. Exactement, je pense que ces mathématiques, elles sont remplies d'aventures et on ne le dit pas assez. On ne le fait pas assez savoir que ces mathématiques, elles peuvent séduire autrement que par des nombres. Et à mon avis, on perd beaucoup trop de potentiels amis des mathématiques de par le fait qu'on ne présente les mathématiques que par leur froideur des chiffres, qui, on en parlait, peuvent avoir un côté rassurant, bien entendu. Mais j'adore ces chiffres. Mais les mathématiques, c'est aussi tellement d'autres choses, en fait. Et c'est ça que j'ai voulu faire savoir à travers toutes ces histoires amusantes.
C'est bien d'autres choses. C'est des animaux, par exemple. On va prendre un exemple assez simple. Les nombres premiers. Alors ça, c'est un truc qu'on apprend. Je vais essayer de dire ce que c'est. Vous allez me dire si j'ai bon. Ce sont des nombres qui ne peuvent être divisés que par eux-mêmes ou par 1. C'est ça, hein ?
Qui admettent seulement 2 diviseurs. Si on veut être tout à fait rigoureux, mais je vous entends.
Et vous, Manu Houdard, quand on vous dit nombres premiers, eh ben, vous pensez à des cigales magiques.
Ah ben oui, effectivement, c'est curieux de voir. Vous savez, il y a aussi une question qui est très intéressante, c'est est-ce qu'on a inventé les mathématiques ou pas? Ah, ça, c'est une longue question philosophique, mais en tout cas, pour répondre à votre interpellation, eh bien justement, les cigales se sont emparées des mathématiques et principalement des nombres premiers, puisque en fait, elles obéissent, une variété de cigales obéit à justement un cycle particulier, on les appelle les cigales 17. Hein, pourquoi? Parce qu'elles apparaissent tous les 17 ans, ce qui leur permet finalement de survivre, contrairement à d'autres sortes de cigales.
17, c'est un nombre premier.
17, pardon, c'est un nombre premier. Merci, effectivement, oui, 17, c'est un nombre premier. Il y a aussi leurs cousines, qui sont les cigales 13, qui est aussi les 13 décimes, qui sont aussi un nombre premier. Et du coup, ça leur permet d'éviter des prédateurs.
Donc en fait, concrètement, les cigales pondent, mais les œufs n'éclosent que 13 ans plus tard, c'est ça?
Alors, c'est pas que les œufs n'éclosent que 13 ans plus tard, c'est qu'elles ne ressortent, elles n'apparaissent, effectivement, elles restent sous terre pendant 13 ans. Or, en fait, imaginez qu'on ait des prédateurs tous les 2 ans, et par exemple, que les cigales sortent tous les 6 ans. Bah, vous voyez, en fait, là j'ai pris 2 cycles qui vont parfaitement se correspondre et donc qui vont nuire au développement des cigales. Alors on pourrait dire, eh bien, on va prendre par exemple 2 et 8, ce sont 2 cycles différents, mais pour avoir justement, pour éviter les confrontations, partir sur le nombre premier est ce qui évite le mieux à ces cigales de se faire dévorer.
Oui, pour 2 raisons. D'abord parce qu'il y a un nombre premier et aussi parce qu'elles sortent toutes ensemble et que donc en fait, même s'il y a des prédateurs, en fait, les prédateurs n'arrivent pas à les manger, hein, c'est ça.
Mais quel plaisir de vous entendre, je vois que vous avez lu attention ce chapitre.
Oui, c'est très intéressant. Il y a une autre histoire que j'aime beaucoup.
Ah, dites-moi.
Ce sont les hiéroglyphes qui désignent les nombres dans l'Égypte antique, ça c'est vraiment beau. On a des anses de panier, des cordes, des fleurs de lotus, des doigts, mais sauf que tout ça a une signification. Vous pouvez nous raconter la signification de chaque hiéroglyphe, par exemple, l'anse de panier.
Lance de panier, effectivement...
Ça veut dire 10.
Ouais. Lance de panier, effectivement, elle veut dire 10. Pourquoi ? Ben parce que dans un panier, somme toute habituel, bah, on peut rassembler, on va dire, raisonnablement une dizaine d'objets. Et donc, les Égyptiens, en fait, ils avaient un système qu'on appelle un système additif, qui est très facile à comprendre, mais en fait, un objet représente un élément. Avec un système additif, à la limite, on peut se contenter d'un seul bâton qui représente l'unité. Sauf que vous aurez compris que quand il y a 15 objets à représenter, bah 15 bâtons, ça devient un peu pénible.
Oui, ça veut dire qu'additif, pour représenter les nombres, ils additionnent des tas de trucs. Ils mettent comme les chiffres romains un peu, non ?
Exactement.
Un 10, un XXX, si c'est...
Exactement. Voilà. Et oui. Merci de me reprendre, parce que pourtant, je suis tellement dans la vulgarisation que parfois, j'en oublie des bases. Et c'est vrai que le système additif... Non, mais donc, merci, n'hésitez pas à éclairer nos auditeurs, bien entendu. Et donc, les Romains, comme effectivement les Égyptiens, se sont dit, bon, bah, à ce moment-là, qu'on doit représenter 20, pardon, qu'on doit représenter 15, bah, 15 bâtonnets, c'est un peu pénible. Donc on va aussi inventer un symbole pour 10, et puis on va en représenter pour 100, et puis pour 1000. Et ils ont eu l'intelligence de représenter évidemment des symboles qui avaient du sens par rapport à la quantité qu'ils représentaient. Mais ce système a un inconvénient majeur. Est-ce que Charlotte, vous vous souvenez ou bien...
Non, franchement, je ne me rappelle pas l'inconvénient, je trouve ça tellement beau.
Mais l'inconvénient majeur, c'est que chaque fois que vous grandissez, que vous passez de 1 à 10 à 100 à 1000 à 10 000 et ainsi de suite, on a besoin d'un nouveau symbole.
Oui, et mais ça c'est bien, on a besoin d'un nouveau symbole, regardez.
Ah non, c'est pas bien,
ah bon
parce que... Ah ben non, parce que en fait, ça veut dire que vous êtes limité dans l'écriture, ce système-là. Alors, à cette époque-là, effectivement, les grands nombres, 1 million, c'était ce qui représente aujourd'hui les téraoctets. Donc, je veux dire, on n'allait pas plus loin que le million, c'était déjà des nombres inimaginables. Mais chaque fois que vous avez besoin d'aller plus loin, à un moment donné, vous êtes bloqué. On ne se rend pas compte de toute l'ingéniosité de notre système, effectivement, qui lui n'est pas un système additif, parce que c'est un système où les symboles changent de valeur suivant le rang qu'ils placent. C'est ce qu'on appelle un système de position. Et alors, ça, c'est toute la nuance.
Ça y est, j'ai compris.
J'adore cette magie qui s'illumine dans vos yeux au moment où on se dit... Ah oui, c'est ça le déclic. Ben, c'est ce qui me fait plaisir dans le fait de raconter les mathématiques.
Il y a un symbole, je reste un tout petit peu sur les Égyptiens, hein, parce que c'est assez beau. Il y a un symbole qui est un doigt. Un autre, c'est un homme agenouillé.
Oui.
Alors, le doigt, oui, parce que c'est rigolo, c'est un doigt qui pointe vers le haut. Et ça, c'est pour dire 1 million, je crois.
Oui, exactement. Pourquoi ? Parce que c'était un beau... Hein. Alors là, il y a plusieurs versions, mais c'était le doigt, en fait, qui indiquait les étoiles. Et vous voyez, le nombre d'étoiles représentait à ce moment-là, on est quand même à l'Antiquité, représentait évidemment ce nombre faramineux et absolu du million, en fait.
Olivier Marchat, je crois que vous avez une question pour notre invité.
Et des étoiles dans les yeux aussi, justement, quand je vous écoute. C'est vraiment super intéressant. Moi, je me mets du côté de l'ancien élève ou du professeur et je me pose la question, j'ai envie de vous poser la question, comment faire pour que les mathématiques soient mieux ou plus enseignables ou plus faciles à enseigner ? À vos entrants, je vois trois dimensions que j'ai envie de vous soumettre. La première, c'est est-ce que, on l'a dit en préparant l'émission, est-ce qu'il n'y a pas une question de narratif ? Est-ce qu'à un moment donné, le cinéma ou vos anecdotes, et on le voit ce matin, les auditeurs l'entendent, ne font parfois peut-être pas mieux pour comprendre vraiment toute l'histoire. Est-ce qu'il y a aussi le contexte ? Est-ce qu'une salle de classe et une salle de spectacle, qu'est-ce que ça apporte, la salle de spectacle ? Et puis aussi, est-ce que aussi les maths doivent pas être plus appliquées à travers des expériences concrètes ? C'est trois petites questions.
Ah, mais trois questions qui sont fondamentales et qui sont très intéressantes. Attendez, la première que vous venez de me dire, c'est si, on en a parlé,
raconter
des histoires. Pour moi, c'est fondamental. Et des élèves que je revois encore aujourd'hui ne se souviennent plus comment faire une intégrale, mais se souviennent très bien de l'histoire, justement, qui avait été racontée. Et moi, prof, je ne voyais jamais autant mes élèves intéressés que quand vous racontiez des choses. Alors attention, bien évidemment que dans les mathématiques, le calcul sont importants. Il y a l'application des mathématiques. Donc moi, j'adore ça. Mais ce que je dis, c'est qu'on perd trop d'élèves qui deviennent fâchés avec les mathématiques, qui du coup seront des adultes qui véhiculeront un passif négatif par rapport aux mathématiques, simplement parce qu'ils n'auront pas réussi à cette technicité du calcul, et qui est importante pour celui qui veut en faire peut-être un métier plus tard. Vous savez... Et et là, c'est pas simple, il y aurait tellement de choses à dire. Mais parfois, en 50 minutes de classe, on était censé ramener 3 siècles d'histoire. Et faire comme si c'était naturel. Comme si, oh ben tiens, regardez, on passe de... Alors qu'il aura fallu 3 siècles au plus grand savant de l'époque pour passer d'une étape à l'autre, eh bien en 50 minutes, il faut que ce soit naturel aux enfants. Donc ça, effectivement, moi je pense qu'on devrait raconter. Et dès la primaire, on peut évidemment... Il faut émerveiller avec les mathématiques. Ça, c'est une première chose. Alors la deuxième chose, c'est que c'est vrai que c'est que la salle de classe est différente d'une salle de spectacle. Bien entendu. Aujourd'hui, j'ai la chance, et je fais aussi beaucoup d'interventions dans les collèges et dans les lycées à travers les établissements scolaires. Et c'est vrai que le rôle est différent d'être là un an que d'être une fois. Mais quand même, je pense, et je me réjouis que je rencontre de plus en plus d'enseignants. Effectivement, les choses sont en train de changer. Donc ça, c'est quand même une bonne nouvelle. Je pense qu'on a compris que les mathématiques ne peuvent pas, ne méritent pas cette austérité qu'on leur a longtemps gardée. On les a longtemps utilisées aussi comme manière de trier, comme outil de sélection. Ça n'a pas favorisé non plus forcément leur réputation, bien entendu. Et aujourd'hui, les choses, même en classe, sont en train de changer. Il y a des activités nombreuses qui permettent. Il suffit de voir aussi toute la littérature qui tourne autour de la vulgarisation mathématique. Donc, je ne suis évidemment pas la solution. Je pense que je suis une partie de cette immense solution qui est en train de se mettre en place autour de la joie des mathématiques.
Mais d'ailleurs, la personne qui signe la préface de votre livre, oui, c'est Antoine Houlou-Garcia. Lui aussi, il écrit sur les mathématiques, plutôt sous l'angle historique. Et tout à coup, voilà, on se rend compte que ce n'est pas juste des chiffres, que c'est aussi plein d'histoires, d'anecdotes. Alors, dans ce livre, vous nous expliquez aussi pourquoi les Français disent 70, 90 et les Belges 70. Mais en fait, on découvre aussi que le 70, c'est les Français qui l'ont inventé. Enfin, voilà, c'est des histoires comme des poupées russes, voilà, dans chaque histoire il y a des sous-histoires et c'est super intéressant. Alors j'ai une date aussi à donner, oui, puisque votre spectacle il tourne toujours
bien sûr.
C'est le 5 novembre au Centre culturel de Moucron. Vous faites aussi des interventions dans les classes, vous
bien
êtes
sûr.
Voilà, assez demandé, donc voilà, j'ai vu sur votre site
sur le site verimatrix.com, voilà. Je pense que toutes les informations sont indiquées.
Et le livre s'appelle Fun Facts, 42 anecdotes drôle pour aimer les maths aux éditions de Books Supérieurs. Ça sort jeudi 23, la semaine prochaine. C'est donc le moment de le réserver chez votre libraire. Merci Manu Houdard.
Ah. Et peut-être cet après-midi au Salon du Livre à Mons Expo, effectivement le plus grand salon du livre de Wallonie. Je serai en dédicace de 15h à 18h.
Eh ben, on sera là. Enfin, pas moi personnellement, mais en tout cas les gens qui nous écoutent pourront donc se précipiter à Mons. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.